Europe 1 Culture Média.
9h, 11h,
Philippe Vandel.
10h04 et 10 secondes, merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez maintenant seulement, et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. Notre invité, je viens de le croiser dans le couloir, c'est José Garcia, on parlait de ce film qui sort aujourd'hui en salle. Ça s'appelle Le Torrent. Bonjour Stéphanie Loire.
Salut Philippe Vandel.
Bonjour Nicolas Caro.
Salut Philippe.
Content de vous retrouver. Bonjour Jean-Luc Lemoine.
Bonjour Philippe.
Content de vous retrouver, mais vous, c'est comme tous les jours. Et comme tous les jours,
les autres,
vous intéressez. Nicolas Caro, il se fait rare, Nicolas Caro, et donc je suis heureux quand il est dans ce studio.
Il est très demandé.
Jean-Luc, tous les jours, vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez zappé sur les chaînes info.
Oui, Philippe, mais pour être honnête, j'avais pas trop le choix. Vous regardez la télé en ce moment ?
À part le foot ?
Ouais, non, mais non, dites-moi, il va se passer quelque chose au mois prochain ? Parce qu'hier, en zappant, je suis tombé sur Noël avec le prince de mes rêves sur TF1. Mmh. Ça me disait pas trop. J'étais zappé sur M6. Il y avait Un Noël près de toi et Tous les chemins mènent à Noël. Sur TF1 série film, il y avait Un Noël saupoudré d'amour. Et sur Dorcel TV, il y avait La grosse bûche du Père Noël. Alors, je sais pas si vous voulez que je passe des extraits de ce dernier téléfilm. Non.
C'est bien ce que je pensais, ouais.
En tout cas, sans spoiler, je peux juste vous dire que le Père Noël, il passe pas que par la cheminée. J'en peux plus des téléfilms de Noël.
Père Noël.
Non mais il faudrait tenter un jour un jeu avec des programmateurs télé, un ni oui ni Noël. Je pense qu'ils perdent en deux secondes. Donc j'ai fait le tour des chaînes info et je suis tombé sur ce sondage dans les GG.
52% des Français préféreraient offrir un cadeau de Noël à leur animal plutôt qu'à leurs enfants.
C'est surprenant quand même, hein. Même si parfois, quand t'as un enfant très poilu, tu peux confondre. Et puis au moins l'animal, il revend pas ses cadeaux sur eBay le lendemain des fêtes. Mais la question que je me suis posée, c'est quel genre de cadeau tu peux offrir à un animal ? Parce qu'un pitbull, une gourmette, a priori, il s'en fout. Heureusement, l'avocate Sarah Salman a apporté son témoignage.
Il y a 2 ans, j'ai offert à mon chihuahua qui s'appelle Triomphe. J'ai offert une gamelle Karl Lagerfeld en cuir.
Ah bah ça va, ça reste simple. Ouais. Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le chien est content quand tu lui fais ce genre de cadeau ? Est-ce qu'il se rend compte que tu viens de claquer ton PEL dans une gamelle ? Alors avant que nos auditeurs le fassent, c'est important qu'ils entendent ça.
Lui s'en fout. Et en fait, l'an dernier, j'ai eu une révélation. Vaut mieux offrir du saumon fumé, de la bouffe, plutôt que des cadeaux.
Ah oui.
Voilà, si vous avez un chihuahua, ne lui achetez pas une PlayStation, il s'en fout. C'est un chien simple, il est heureux avec du saumon fumé. Moi, ce que je conseille surtout aux gens à Noël, c'est d'acheter un costume de chihuahua pour aller bouffer gratos chez Sarah Salman. Alors, j'ai zappé sur CNews, où ça parlait Covid. Et là, un journaliste avait été faire un micro-trottoir sur le rappel vaccinal des seniors, pour la séquence la plus hallucinante de la journée d'hier.
Alors, comment ça se fait que chez les plus de 60 ans, ça marque le pas ? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à jour de leur rappel.
Qu'est-ce que j'ai qui donne ? Ah, j'ai un truc qui me...
C'est le moment du striptease.
Ouais, la dame n'est pas très concentrée parce qu'elle sent que quelque chose se passe dans sa manche. Ah, mais je raconte mal, je me rends compte. Vaut mieux laisser faire ça à un professionnel. Romain Desarbes, s'il vous plaît.
Cette dame s'arrête parce qu'elle ressent une gêne dans sa manche. Vous imaginez la suite. Elle enlève son manteau, il y avait un rat dans sa manche.
Alors, je précise que la dame n'était pas magicienne. Oh, regardez, je peux faire apparaître des rats. Non, elle sortait juste du métro parisien. Et
mais
ça,
non.
Si, ça a beaucoup choqué Romain.
Cette dame avait un rat, alors qu'elle sortait du métro, un rat dans sa manche. Je ne sais pas comment il est arrivé là, mais elle devait être assise, il est monté par là.
Ou il avait un passe Navigo. C'est pour ça que Valérie Pécresse envisage de l'augmenter. Maintenant, on t'offre un animal de compagnie. Bon, en tout cas, maintenant on le sait, à Paris, quand on demande aux seniors s'ils ont fait leur rappel de vaccin, on ne parle pas du Covid, on parle de la peste. Et pour finir, c'est le jour de match des Bleus, avec toujours des supporters qui s'enflamment pour leur équipe, comme Sandrine Rousseau.
Mais je pense que l'équipe de France est parmi celles qui manquent le plus de courage, là, en l'occurrence.
Ils sont pleutres.
Ils sont pleutres.
Bon, je vous rassure, très peu de joueurs ont été vexés par cette déclaration. Déjà parce qu'ils n'écoutent pas Sandrine Rousseau, et aussi parce que la plupart ne savent pas ce que ça veut dire pleutre. Donc, pour se mettre vraiment dans l'ambiance du match de 16h, Pascal Praud nous a parlé de la chanson choisie par les Bleus, comme VG Dream. Et il y a 4 ans, vous vous souvenez, avec Ramener la Coupe à la maison.
Elle n'est jamais officielle, cette chanson. Elle s'impose d'elle-même. C'était Gloria Guénard en 98.
Voilà, c'était Gloria Guénard, sans doute de la famille de Robert Ménard. Donc, c'était I Will Survive. Et cette année, The Winner is.
Freed from Desire, de Gala. Vous connaissez Freedom from Desire?
Oui, on connaît. Alors, allez les Bleus.
Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine. À demain, je rappelle qu'on vous retrouve tout à l'heure. Historiquement Vôtre, c'est de 16h à 18h avec Stéphane Bern. Merci encore. Stéphanie Loire, vous étiez horrifiée par cette histoire de rat.
Je suis choquée par cette histoire de rat. Je prends le métro tous les jours, je suis terrifiée.
Alors, ramenez-nous un animal, s'il vous plaît.
Vous n'avez pas vu l'image. L'image est terrifiante. On voit vraiment le rat qui sort de la manche. La question, ce n'est pas celle-ci. La question, c'est votre indispensable aujourd'hui. C'est
oui,
quoi?
Oui, aujourd'hui, je vous parle de rap publié dans des livres. Ouais. Et puis ensuite, je vous parle d'un coffret collecteur de la reine Tina Turner.
Nicolas Caro, c'est la même question. Vous êtes là. Déjà, c'est vous qui êtes indispensable. Pim, en premier, petit compliment. Deuxièmement, merci. Le second indispensable, ce sera quoi?
J'ai deux livres. Ah. Un grand et beau sur les grands procès de l'histoire. Et puis un petit sur le procès du Père Noël.
Dans un instant, le procès du Père Noël, c'est pour Jean-Luc. José Garcia nous rejoint, on parle de ce film Le Torrent qui sort aujourd'hui. Mais d'abord, musique avec le duo Vianney et Chiran sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour José Garcia.
Bonjour Philippe.
Comédien, j'ai déjà dit, mais on vous connaîtra à vie comme le complice d'Antoine de Caunes dans Nulle part ailleurs, comme Jack Lang sera ministre de la Culture à vie. Figure du cinéma, on vous a vu dans La Vérité si je mens 1, 2, 3, César du meilleur espoir, Jet Set, Le Boulet, vous avez tourné avec Lavène, avec Guillaume Canet, et je n'oublie pas la série Totem, dont vous étiez venu nous parler. Votre actualité, c'est Le Torrent, film d'Anne Leny, avec elle-même Anne Leny, qui joue une capitaine de gendarmerie, capitaine, je ne connais pas les grades, enfin qui joue une gendarme, André Dussolier, Ophélia Kolb, ça sort aujourd'hui. Le Torrent, c'est à la fois un torrent dans les Vosges, magnifiquement filmé, et c'est le torrent de la vie qui peut vous emporter. Qui est Alexandre, votre personnage?
Alexandre, c'est un type qui a plutôt bien réussi dans les Vosges. Il exporte des chalets, donc vraiment, c'est un peu la fierté de la région. Il est arrivé pile poil, il est au moment où il est vraiment au summum de sa réussite, parce qu'on sent que le type a bien trimé. Et il a une fille qui a 18 ans, qui est jouée par Capucine Velmarie, qui est d'un premier mariage, et lui s'est installé dans un très joli chalet avec sa nouvelle compagne et un petit garçon. À un moment, sa fille arrive, on sent qu'elle a beaucoup de mal à obtenir l'amour de son père. Elle n'est pas vraiment installée chez lui, elle n'a pas vraiment de chambre à lui, enfin à elle. Voilà, mais elle adore son papa. Ouais. Et
quand
voilà.
Elle arrive, juste pour raconter, pour situer les rapports humains, elle arrive, il est hyper content, il dit « Ah ma chérie, je suis très heureux que tu sois là ce week-end ». Le même soir, il a théâtre, il avait oublié. Et donc, du coup, il la plante.
Voilà, il s'en sert un peu comme une nounou. Ouais. Donc, en fait, il se sert un petit peu d'elle. Voilà, il n'est pas vraiment... Il a l'impression que quand lui, il va bien, en fait, tout le monde va bien. Voilà. Et bref, il arrive une petite dispute, une petite histoire comme ça avec ma compagne et elle disparaît. Et en fait, à partir du moment où elle disparaît...
C'est pas une petite dispute. On peut pas raconter la cause de la dispute parce que c'est pas une petite dispute quand même.
Non, mais enfin, bon, il considère que c'est un petit peu.
Ouais. Non, c'est une grosse engueulade.
Ouais, c'est une grosse engueulade. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'essaie toujours de sauver mes personnages.
Passer des extraits. Alors, voilà. On va passer des extraits. Les extraits nous sont donnés par la prod. Ouais. Donc on se dit au moins, on est couvert. On a l'imprimatur de la prod.
Tout va bien. De toute façon, sinon, tout est raconté dès le début du film.
Sinon, on peut pas raconter. Oui, parce que c'est comme dans. Je vais raconter ce qui se passe. C'est que la jeune femme trouve une clé USB sur laquelle elle découvre, vous verrez comment, que la nouvelle femme de votre personnage a un amant.
Ouais.
D'où la dispute.
Voilà.
Et il va avoir un sens. On va entendre un extrait. Non, je ne sais pas si je vais tout de suite raconter l'extrait. Je veux raconter qu'on est comme dans un Simenon ou dans un Columbo. C'est qu'on sait dès le début ce qui se passe.
Oui.
Ça, on peut le dire.
Ça, absolument.
Parce que ça ne change rien au film, à l'histoire, puisqu'on ne sait pas comment ça va finir.
Ouais. Et puis, de toute façon, c'est la forme qui est importante, c'est le thriller, mais ce n'est pas du tout le fond. Le fond, c'est vraiment le rapport entre êtres humains et ce que l'âme humaine est capable de faire. Voilà.
Parce qu'au départ, voilà l'histoire, c'est qu'il y a un accident. Ophélia Kolb va décéder, elle va mourir, et c'est un accident. Nous, on sait que c'est un accident. Vous savez que c'est un accident. Le spectateur sait que c'est un accident. Mais pas la police, pas l'entourage, pas sa fille. Personne ne sait et il y a des doutes partout. Et le film, c'est l'histoire de ces doutes et de qui croit qui dans une histoire.
Et de la manipulation, en fait.
C'est ça le récit.
C'est ça le récit.
Voilà. Votre femme Juliette fait une chute mortelle. Vous comprenez rapidement, vous allez être soupçonné de cette disparition. Vous devenez évidemment le suspect numéro un. C'est pour ça que je disais que c'est important de savoir qu'il y a une tromperie. C'est pas comme si on s'engueule sur la cuisson des nouilles.
Ouais.
C'est pas tout à fait le même enjeu. Vous multipliez les mensonges pour vous protéger, tout en sachant que vous êtes innocent. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Et vous demandez à Lison, votre fille qui était chez vous au moment des fêtes, vous couvrir si la police vous l'interroge. Puis d'inventer un plus gros mensonge, sauf qu'elle n'arrive pas à mentir aussi bien à tout le monde. Elle se prend un peu les pieds dans le tapis. Extrait.
Si Jean, les parents de Juliette, ils sont trop malheureux. C'est affreux.
Ouais, c'est dur. Très dur.
Et nous, on est là à leur mentir. Je peux pas faire ça, je n'y arrive pas.
Écoute, Lison, c'est très dur pour moi aussi. Je suis obligé, j'ai pas le choix. Faut juste que tu tiennes jusqu'à l'enterrement. Et après, tu les reverras plus jamais.
Mais même quand ils seront partis, je vais devoir continuer à mentir. C'est pour toujours maintenant. Avec tout le monde.
Mais non, pas avec moi. On se dira toujours la vérité, on est tous les deux, on est ensemble.
On est ensemble.
Et on le sera toujours.
S'il te plaît, me fais pas le coup de la belle vie.
Quoi, mais pourquoi tu dis ça?
J'arrive pas à savoir quand tu dis la vérité.
Elle vous croit pas. Autre fille, là, faut pas tout raconter parce que là, justement, ça varie, ça flotte. C'est extrêmement mouvant.
Mais c'est la difficulté. C'est-à-dire que l'amour inconditionnel, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand vous êtes en famille et que vous demandez à quelqu'un de couvrir un crime, voilà, ou quelque chose d'un peu difficile, dans quoi vous emmenez votre famille, quoi. C'est ça qui m'a intéressé, moi. Et ce qui était intéressant aussi, la raison pour laquelle Anne-Lenis a fait appel à mes services, c'est qu'elle avait besoin de quelqu'un pour qui les gens ont beaucoup d'empathie et ne se rendent pas compte tout de suite de ce qui était en train d'arriver. Mais en fait, je fais des mauvais choix dès le départ, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison. Et je manipule ma fille, ni plus ni moins. Je l'emmène dans un mensonge qui l'écrase, qui nous écrase tous et qui va, évidemment, broyer toute cette famille au fur et à mesure.
La famille et la belle famille, on en parle aussi. José Garcia est avec nous. Culture Média continue.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Le Torrent, c'est le film d'Anne-Lenis avec André Dussolier qui sort aujourd'hui avec José Garcia, dont c'est le retour. Je dis c'est le retour, mais pendant la pause pub, on vous a pas perdu, José Garcia. On a entendu ceci.
Si vous pensez que parce que je m'appelle José, je me sens bien qu'au soleil, ben vous avez tout faux. La pluie, le brouillard, le froid, mais zéro problème. Zéro problème.
Et oui, je suis partout. Voilà. Le torrent, en fait, m'a fait développer une idée, c'est que j'étais l'eau. Et l'eau, c'est l'érosion, donc je m'introduis partout. Je suis partout, en permanence. Je suis un algorithme.
José Garcia, le meilleur des algorithmes. Il y a aussi, je reviens sérieux et je reparle du film Le Torrent. Vous parliez de la famille, il y a également les beaux-parents, notamment votre beau-père, Patrick, qui est incarné par André Dussolier. Au début, les beaux-parents sont avec vous, ils sont sur votre ligne et ils doutent de plus en plus.
Oui, j'ai une belle-mère qui est formidable, qui elle est complètement dingue de moi. En fait, elle s'imagine que j'ai donné une vie formidable à sa fille et elle me considère comme le genre d'idéal. Ouais. Et j'imagine qu'en fait, André Dussolier doit subir tous les jours un peu. Mais tu vois, lui au moins, il a donné ça à sa femme. Voilà, enfin bref, une espèce de rancœur. Et derrière, André qui lui, le personnage André qui lui subit un peu tout ça. Il est un peu mis à l'écart et qui reste dans l'observation. Et lui, c'est un père qui lui aussi a un amour inconditionnel pour sa fille. Et en fait, il se rend compte que les choses ne sont pas vraiment telles qu'elles doivent être.
La belle-mère, c'est Christiane Millet qui est formidable, André Dussolier. Et quand on vous voit tous les trois assis à table avec votre belle-mère en train de vous consoler, moi je pensais à l'affaire Jonathan Daval.
Oui, c'est épouvantable, mais c'est ça. Ouais. C'est épouvantable parce que Jonathan Daval, quand vous revoyez les images, vous vous rendez compte de cette espèce de chemin de croix. Je prends ça parce que voilà, c'est celui que je connais le mieux, mais de douleur et d'horreur de la compression du monde qui s'abat sur lui et de la souffrance d'un être qui s'est mis dans le mensonge, quoi.
André Dussolier, on va l'entendre, il se met à douter de votre innocence. Au début, il y croit évidemment totalement. Il tente d'en savoir plus et donc il sonde votre fille Lison, celle qui était là le soir du coup de gueule, avant le drame, pour tenter de trouver la moindre preuve de ce qui pourrait laisser supposer que ce fut un homicide et non pas un accident.
Écoute-moi, je pense que t'as menti à la police. Je te blâme pas. Je comprends, c'est ton père. Mais ce mensonge, ça va faire du mal à tout le monde. À toi aussi, ça va faire du mal. Ça va te pourrir la vie, Lison. À toi, Darius. Ce mensonge, c'est du poison. Ton père n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû te laisser faire ça.
Darius est le petit garçon de 8 ans. Comment c'était de se retrouver avec André Dussolier ? Vous étiez déjà dans le film avec lui à fond.
Oui, alors là c'était carrément. Ouais, là c'est une histoire de fou. C'était 7 heures par jour, 600 voitures, on faisait tout en vrai. Donc,
c'est pas vrai.
Ah oui, ouais, on a fait ça à fond. C'est une aventure démente.
Je raconte le script, le synopsis est tellement génial. C'est une voiture dont l'accélérateur se bloque.
Ouais.
Et vous êtes.
Le cruise control, vous savez, le limitateur de vitesse. Et on reste à 130 km/h pendant tout le film. Et on l'a fait en vrai. On l'a fait en vrai, en passant les... C'est-à-dire que quand on joue, on arrive vraiment sur les obstacles, on a des voitures
Vous avez passé les péages à 130 ?
Ouais.
Avec 50 cm de chaque côté ?
Ouais. Bah, très balisé, mais on les a passés. Ouais,
il y en a qui touchent à 20 à l'heure. Hein.
Oui, non, mais c'est ça. Mais après, vous savez, c'est, c'est le cinéma. Ouais. Non, mais on a vraiment... Et là, André, c'était un peu l'incorrigible. Hein. Ouais. C'était Jean-Paul Belmondo sur le toit.
Mais c'était un film drôle.
Et c'est un film drôle. Ouais.
Donc là, c'est différent. C'est
là,
un autre registre.
Là, ce qui est formidable, c'est que André a une biographie longue comme le bras de films dans lesquels il manipule, il séduit, il négocie. Et d'avoir inversé un peu les rôles et de jouer et de se prendre les pieds dans le tapis face à lui, c'était un bonheur. Parce qu'on était en apnée. Mais c'est un acteur dément.
Vous avez dit oui à ce film, vous dites pour quelle raison. Je vais poser la question de cette manière parce que la réalisatrice Anne Leny dit que précédemment, vous aviez gentiment refusé un rôle qu'elle vous avait proposé.
Oui. Oui, bah écoutez, c'est soit j'arrive à le faire, soit il y a quelque chose que j'ai déjà fait, soit je sens que je vais m'ennuyer ou que je peux le faire, mais c'est, moi j'ai besoin de challenge, j'ai besoin d'aller explorer des choses que j'ai jamais explorées jusqu'à maintenant.
En l'occurrence, c'était quoi le challenge là pour vous sur ce film ?
Le challenge là, c'est que Costa Gavras m'avait demandé de me battre pour ma famille dans le coup près, de me battre pour garder mon travail, et je considérais dans le film que garder son travail, c'était garder ma famille. Donc je me battais pour ma famille, donc je faisais des choses ignobles, mais comme un père ferait des choses ignobles pour sauver sa famille. Et là, c'était comment manipuler sa famille par peur de tout perdre. Et le spectre de la peur est extraordinaire parce qu'il vous fait faire des choses encore plus innommables. On ne se rend pas compte à quel point la peur pour vous emmener dans des méandres absolument déments, tellement songe, fait que vous ne pouvez pas revenir en arrière.
Vous parlez de ceci comme si c'était une expérience personnelle. Qu'est-ce que vous avez déjà fait de dingo par peur, José Garcia ?
Par peur, pas vraiment. J'ai pas fait de choses dingo par peur, mais c'est un spectre que j'aime bien découvrir parce que on se rend compte
comme comédien. Ah non, parce que là je découvrais un autre José.
Non. Ça me fascine parce qu' on est. Vous savez, ce que j'aime à dire, c'est qu'en fait, si on est là, vous et moi, c'est que les trois quarts de nos ancêtres, très longtemps, ont pris la fuite devant le danger. C'est grâce à ça qu'on existe, puisque la première des émotions, c'est de prendre la fuite devant un animal dangereux, devant n'importe quoi. Donc voilà.
Je suis tellement d'accord avec vous. C'est un proverbe que je déteste. La peur n'évite pas le danger. Si la peur évite le danger.
Bien sûr.
Si vous avez peur du précipice, vous ne passez pas à côté et vous avez plus de chances d'être vivant.
Voilà. Non, absolument. Et c'est un des fondements de l'humanité, c'est de courir.
Quel rapport avec le rap ? Aucun. C'est Stéphanie Loire qui arrive. C'est un indispensable. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de José Garcia, Le Torrent, ce film qui sort aujourd'hui, signé Anne Leny, avec André Dussollier et Ophélia Kolb. Mais là, tout à fait autre chose. On va parler non pas musique avec vous, Stéphanie Loire. Rebonjour.
Bonjour, José Garcia.
Mais livre. Et là, attention, c'est pointu. C'est une sélection de livres publiés cet automne. Mais attention, c'est pointu, c'est une sélection de livres sur le rap publiés cet automne.
Exactement, je suis dans la niche, moi. Ouais. Le rap se scande, le rap est en mutation perpétuelle et le rap se lit, puisque son histoire est racontée par ceux qui l'ont vu grandir en France dans deux ouvrages différents. Je commence avec Ma Planète Rap, un livre édité chez Hors Collection, signé par celui qui incarne le rap à la radio en France depuis plus de 25 ans, c'est Fred Musa, qui a coécrit avec le journaliste Vincent Brunner. C'est l'histoire d'un animateur qui a accompagné l'émergence du rap en France. Et puis bien sûr l'histoire de cette musique qui est passée de l'ombre à la lumière, du ghetto aux plus grandes scènes. Au fil des pages, on assiste à la naissance, la croissance d'artistes comme Assassin, IAM, Lunatic, Arsenic, NTM bien sûr. Si j'osais, je ferais un freestyle, mais non, j'y vais pas. Entre passion, clash et...
J'aurais même plus de et si José Garcia.
Si José Garcia, merci Philippe. Dans ces livres, on croise les voix et les voix, VOIX et VOIE, avec un S, c'est au pluriel, de Doc Gynéco, du ministère Hammer, de la Funky Family, des psychiatres de la rime, de la rumeur, du 113, de Rachida, de Booba, la nouvelle scène rap, également PNL, L'Homme Pâle, Weshden, sans oublier celle qui a marqué le début des années 2000, qui est devenue un phénomène de société en seulement 3 albums, qui raconte son parcours dans Salam, son documentaire présenté au Festival de Cannes. C'est bien sûr Diams, la taulière. À son sujet, Fred Musa confie des tranches d'intimité qu'ils ont partagées ensemble, la détresse à laquelle elle faisait face alors qu'elle était à l'apogée de son succès. Elle recevait pléthore de témoignages d'admiration, d'amour de la part de son public, et elle rentrait chez elle démunie face à sa solitude après le frisson des tournées à guichet fermé.
L'histoire du rap racontée donc par Fred Musa, puis autre ouvrage sur une figure incontournable du rap en France. On l'a vu souvent ici dans les studios de NPA, c'est Cut Killer.
Ah, Cut Killer, vous connaissez ?
Non, oui, je vois connaître le visage.
Fameux. Oui. DJ dans une autobiographie illustrée d'images qui fleure bon la nostalgie d'une époque révolue. Ce DJ français Cut Killer retrace avec Julien Sivange 30 années de hip-hop hexagonal. Le livre s'appelle Mixtape 2.0. C'est un ouvrage au travers duquel on sillonne sur le sentier du hip-hop en France. Je sens que vous l'avez bien sillonné ce sentier, José Garcia. On fait étape par l'arrivée du Walkman. Souvenez-vous, cet objet
le
fabuleux.
Walkman, cet accent, j'adore.
cet objet qui parfois ne rentrait pas dans la poche du blouson qui était un peu trop grand.
On se faisait tirer. Surtout, ouais.
On le gardait à la main, on se le faisait voler aussi. On raconte bien sûr l'arrivée du hip-hop en France, la passion de Cut Killer pour le rap, les premières cassettes, l'importance qu'a eu le film La Haine de Mathieu Kassovitz pour toute une génération, le début des soirées hip-hop soul party. Mes Madeleines de Proust à moi, l'époque où je m'habillais en jogging pot de pêche pour faire comme Jello. Vous avez connu des filles qui portaient des jogging pot de pêche ? Ouais, il y a eu du clin d'œil dans le studio, vous ne l'avez pas entendu. Dans ce livre, on croise les DJ Dynasty, Akhenaton, MC Solar qui font partie des personnages centraux de cette aventure et qui tiennent une place de choix dans l'encyclopédie du rap.
Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur.
Mixtape 2.0, donc c'est le récit signé par Cut Killer chez Robert Laffont. Et puis une dernière actu musique, c'est un coffret de l'album Break Every Rule de Tina Turner.
Quel accent il est.
Casse toutes les règles, oh vas-y, là là. Lance-toi Steph.
Tina Turner, la queen of rock and roll, qui a aujourd'hui 83 ans. Elle réédite son album Break Every Rule, publié en 1986. Encore cette époque où on passait des heures à démêler les bandes des cassettes. C'est un indispensable très nostalgique hein, ce matin. Alors attention, idée cadeau, alerte, très bel objet musical. Il s'agit d'un coffret de luxe. On y retrouve l'album original remasterisé, celui qui a marqué le grand retour de Tina Turner en 86, sur lequel elle a collaboré avec Bowie, Bryan Adams, Phil Collins. Parmi les titres, le single Typical Male. Dans ce coffret aussi, il y a des phases B, des remixes et surtout des performances live dingues comme ce Proud Mary en live à Rio. En 1988, l'époque où Philou portait des épaulettes. C'est trop bon.
C'est tellement bon ça.
C'est un concert qui a battu le record du Guinness pour avoir réuni 180 000 spectateurs au Macarania de Rio de Janeiro. Et dans ce coffret, on retrouve aussi la captation de ce concert absolument zinzin. Je rappelle qu'écouter Tina Turner, c'est recommandé par le ministère de la Santé pour éviter de choper le spleen automnal et avoir un teint lumineux. Ça marche ou pas ?
Mais tellement. Ça marche tellement, tellement. Tina Turner, redites le titre.
Break Every Rule.
Merci beaucoup Stéphanie Loire. Ça c'est pour vous, José Garcia.
Merci.
C'est tout démago cette émission, non ?
Non, pas du tout. Hein ?
On revient dans un instant, on est avec José Garcia. On remercie Stéphanie, vous serez là demain aussi Stéphanie.
Je serai là demain et puis tous les week-ends sur Europe 1, 16h-17h.
Mais tellement bien, l'émission s'appelle Musique. À tout de suite.
9h-11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de José Garcia, Le Torrent, film d'Anne Leni, dans lequel il interprète le personnage principal. Ça vient de sortir aujourd'hui sur les écrans, parce que je crois que la première séance est à 9h. Vous êtes un gros lecteur, José Garcia ?
Non, malheureusement.
Vous avez fait vos cadeaux de Noël ?
J'ai fait une petite partie, ouais, mais elle est assez léger.
Alors, en fait. Justement, il reste de la place sous le sapin lourd, et dans le cartable. Nicolas Carreau, rebonjour. Ce matin, vous avez porté ce qu'on appelle un beau livre et puis un plus petit.
Oui, le beau livre, c'est la catégorie, le grand format illustré qui pèse lourd et qui se pose éventuellement sur la table basse du salon. Bon, ouais. Celui-ci, on peut le ranger sur la tranche parce que la couverture, c'est quand même une grande photo de Landru dans le box des accusés. Le livre s'appelle « Accusés, levez-vous », signé Caroline Pigozzi et l'avocat Jean-Yves Le Borgne, que vous aviez reçu, je crois.
Exactement.
C'est chez Grund et Plon.
Alors, je plus sois totalement, livre magnifique. Ce sont des très, très grands procès racontés.
Exactement. Les récits des grandes affaires, mais surtout des documents, des photos, des illustrations d'époque, des photos des audiences parfois, mais aussi des photos à côté du procès, comme celle-ci incroyable de Jean-Paul II assis sur une petite chaise en face d'Ali Aksa 2 ans après que celui-là a essayé de l'assassiner en lui tirant dessus. C'était en 1981. Et on le voit là comme ça, assis devant lui. C'est assez impressionnant. C'est classé par catégorie. Il y a les crimes passionnels, les meurtres au poison, les erreurs judiciaires, les énigmes, les militaires et les fous de Dieu, par exemple.
Alors, un exemple, Nico.
Alors, c'est dur de choisir.
Il y a Nicolas Caron, pardon.
Dizaines.
Monsieur Nicolas Caron.
Allez-y, je vous
en
prie,
exemple,
Philippe.
S'il vous plaît.
L'affaire Pauline Dubuisson en 1951, cette étudiante en médecine qui tue son ancien amant Félix par dépit amoureux. Il y avait eu le livre incroyable de Jaénada qui s'appelait La petite femelle qui racontait ça aussi.
Sauf que le Jaénada, c'était 600 pages.
Voilà.
Tandis que là, on a la photo,
oui,
on est content.
À chaque fois, c'est en 2-3 pages avec des photos et tout. Là, il n'y a rien à voir aussi, mais c'est Issei Sagawa, incroyable, l'étudiant japonais au début des années 80 qui a mangé la néerlandaise de 25 ans.
Fui.
Et il y a la photo du type qui a l'air... Ça se voit, en fait. Il a l'air
qui a fui, et comme on est une émission média, qui est ensuite au Japon une émission télé,
voilà,
qui est devenue une vedette.
C'est ça, qui était devenue une vedette. Mmh. Procès historique aussi, Barbe Bleue, Gilles de Rais, un grand psychopathe jugé pour actes monstrueux et démoniaques. Il violait, torturait, on parle de 140 victimes quand même. Il a été exécuté. Le procès de Jeanne d'Arc aussi, les procès de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi des procès iniques d'écrivains comme Flaubert pour Madame Bovary, atteinte aux bonnes mœurs, ou celui d'Oscar Wilde, jugé et condamné à la prison pour homosexualité, accusé par le père de son ancien amant. Et puis les énigmes, mes préférés, il y a l'affaire Seznec, on n'est toujours pas sûr, l'affaire Dominici, idem, enfin je ne vous fais pas tout, c'est une sorte d'encyclopédie.
Voilà, et on avait parlé de l'affaire Dominici, parce que c'est après cette affaire, comme il y avait les caméras dans le prétoire, qu'on a décidé de les interdire, puisque c'était un foutoir pas possible, ils rechargeaient, ils remettaient des films, tout était filmé, enfin c'était n'importe quoi.
Et maintenant, elles vont revenir.
Accusé, levez-vous. Oui, mais ce sera des caméras automatiques. Mmh. Accusé, levez-vous, donc, de Caroline Pigozzi et Jean-Yves Le Borgne. Et vous avez également un plus petit livre, Nicolas Caro.
Alors ça, c'est le procès du Père Noël de Raphaël Costa.
Oh non.
Chez Henrique Édition, c'est drôle. Raphaël Costa, c'est un juriste, prof à l'université et tout, mais aussi suivi sur Twitter par 390 000 abonnés pour son compte Curiosité juridique, où il raconte des incongruités, des énormités aussi de décisions judiciaires. Dans ce livre, il imagine le procès du Père Noël. Les chefs d'inculpation sont très lourds. Violation de domicile et de l'espace aérien français. Mmh. Exploitation et travail forcé pour les lutins. Actes de cruauté envers les animaux. Livraison de jouets contrefaits et défectueux, ça arrive.
Oh, bah, tellement.
Et tout ça, ça peut aller chercher très loin. Et je peux vous dire même exactement combien, puisque Raphaël Costa prend le sujet au sérieux et il nous donne les vrais articles de loi et les peines maximales encourues. Donc, violation de domicile et de l'espace aérien, c'est 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende. Travail forcé, 15 ans et 200 000 euros.
Attendez, c'est une étude juridique, c'est-à-dire qu'il prend vraiment au sérieux le procès du Père Noël.
Il
y a
peu
des gens
qui ont
du temps libre.
Dans un an, c'est interdit maintenant. Ouais. Les clowns d'abord, et puis maintenant le Père Noël, là c'est bon, là, on va avoir des fêtes.
En fait, c'est surtout très drôle, mais c'est une manière de parler du droit, sauf qu'il transforme la matière en quelque chose d'amusant. Mais il fait vraiment comme si, hein. il y a toutes
c'est
les
génial.
Articles de loi sont vrais.
Le travail de nuit.
Il y a les jurisprudences, les antécédents judiciaires, administratifs, les témoins directs, les témoins à charge, les experts, les pièces à conviction. Il y a tout le déroulé d'un vrai procès, et à la fin, le jugement, bah, c'est vous qui le faites. Mais bon, évidemment, ce n'est pas tout à fait l'objectif. C'est surtout qu'on en apprend beaucoup. C'est une collection d'ailleurs de droits. Et au passage, on apprend beaucoup sur le système judiciaire.
Merci beaucoup, Nicolas Caro. Le procès du Père Noël, donc. Mais oui, les rennes qu'on oblige à galoper toute la nuit.
Bien sûr.
Oui.
C'est pas très sympathique.
Et puis, en plus, c'est violation de l'espace aérien mondial.
Ouais.
C'est là qu'il passe d'un pays à un autre, parce qu'il ne faut pas...
Bah justement, mais nous, comme le procès se passe en France, ça peut être que l'espace aérien français. Mais
ce qui est déjà
verront.
Énorme, hein, je veux dire.
Vous pilotez toujours, vous.
Oui, moi je suis pilote.
Et vous connaissez ce problème-là?
Ouf, ça peut être terrible.
Ah bon, par exemple?
Bah, si vous rentrez dans une zone militaire, en 2 secondes, vous avez soit un hélicoptère avec un tireur d'élite, soit un avion, un énorme Mirage qui vient se poser à côté de vous.
Ça vous est déjà arrivé?
Ah non, j'ai vu 2-3 personnes. Il y a quelqu'un qui avait coupé dans l'aérodrome où je volais le sillage de l'avion de Monsieur Fillon. Donc lui, il a pris très cher. Un autre qui était en sens inverse, et je l'ai entendu à la radio, qui dit, un vieux monsieur qui montait sur Paris, comme on dit, et qui dit à un moment qu'il voyait des points qui arrivaient vers lui, et le mec lui a dit que c'était la patrouille de France. Donc voilà. Donc ça a dû être un peu chaud, quoi.
Monsieur Fillon, qui était Premier ministre.
Qui était Premier ministre.
Pas Monsieur Fillon, personnellement.
Non.
En tant que lui-même.
Enfin, allez savoir.
Merci beaucoup Nicolas Caro, je suis heureux d'avoir José Garcia toujours vivant malgré ses voltiges aériennes dans des couloirs qui ne sont pas respectés. C'est ouais. Notre avion qui est en train de se garer. Culture Média continue, c'est la dernière ligne droite. À tout de suite.
11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de José Garcia, le torrent film d'Anne Leni qui l'incarne avec Anne Leni elle-même. Je ne vous ai pas demandé, c'est comment d'avoir un rôle, d'avoir des scènes avec sa réalisatrice? Ça change quelque chose ou pas du tout?
Non, parce que
c'est une question de type qui n'a jamais tourné de film.
Alors, ça peut changer si, par exemple, votre metteur en scène est complètement obsédé par ce que vous devez faire et qui se met à jouer la scène pendant que vous êtes en train de la jouer. Ça m'est déjà arrivé, c'est très drôle.
J'ai pas compris.
En fait, vous êtes que ce soit au théâtre ou au cinéma, vous pouvez avoir votre metteur en scène qui a tellement passé de temps avec vous. Ça arrive surtout au théâtre,
ouais.
Où en fait, il redevient spectateur pendant que vous jouez. Et il dit avec les labiales, il dit les paroles.
Il vous réplique à vous.
Il vous réplique à vous. Parce qu'il est en train de suivre la pièce, il est spectateur total de ce que vous êtes en train de faire. Il a tellement l'habitude d'être dans la salle et de vous regarder jouer que quand il doit remplacer quelqu'un au pied levé et qu'il est en face de vous, il dit les labiales.
Mais lui, il oublie qu'il est Harpagon.
Il oublie complètement. Il oublie complètement. Ça, c'est très drôle. Ça, ça m'est arrivé 2-3 fois. Et aussi au cinéma, où le mec, il commence à sourire et il fait les gestes en même temps comme s'il était au combo. Comme s'il était à l'écran, vous savez, dans
exactement.
Lequel on observe. Voilà.
Sauf qu'au cinéma, on peut couper, alors qu'au théâtre, on peut pas, donc les spectateurs se marrent.
Oui.
Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il lui prend ?
C'est surtout qu'on regarde son partenaire en lui disant, arrête. C'est encore plus gênant. L'autre se rend compte tout de suite du problème.
Et en l'occurrence, avec Anne Leni ?
Non, parce que c'est une vraie professionnelle, puis elle s'est donné un rôle sur lequel elle pouvait être concentrée pendant un laps de temps, mais surtout rester très à l'écoute.
Puis elle est terrible, parce qu'elle s'est presque donné un rôle en surplomb, puisque comme c'est elle qui enquête.
Oui.
C'est elle qui a le pouvoir, ouais. Et dans le film, c'est elle qui dirige, donc c'est elle qui a le pouvoir.
En plus. Mais elle voulait surtout qu'on l'appelle capitaine. Non, non, c'est ce qu'elle dit en tout cas. Non, c'est elle était surtout dans un rôle dans lequel elle pouvait jouer, se faire plaisir et sans être obligée d'être là tout le temps. Et voilà, pour rester très concentrée, parce qu'elle a fait un travail et d'écriture et de mise en scène absolument démente, vraiment d'orfèvre.
Attends, juste un mot, parce que comme ça, pour savoir. Donc, elle est en capitaine de gendarmerie.
Oui.
Mais quand elle n'a pas de scène, elle dirige tout habillée en capitaine de gendarmerie. Ou est-ce qu'elle se remet en civil?
Non, elle est en civil. Elle est en civil, mais après, quand elle joue, évidemment, oui. En capitaine de gendarmerie,
il y a encore plus de respect. Je ne suis pas complètement idiot, je sais quand elle joue un capitaine de gendarmerie, elle est en tenue.
Oui.
Mais quand elle n'a pas de scène, est-ce qu'elle reste dans sa tenue de capitaine
non,
en disant
«
recommencer,
serait...
toi place-toi, mets ta lumière ici, toi le son revient ».
Non, ni en uniforme, voilà. Ni en quoi que ce soit. Non, il y en
est à propos de capitaine, vous dites que votre vocation d'acteur est née pendant votre service militaire, le soir où vous avez garé un camion.
Ah non, ce n'est pas ma vocation, c'est-à-dire que je suis allé me présenter pour les premiers jours où on devait... En fait, c'était éliminatoire, si je ne venais pas me présenter le premier jour au Conflans,
ouais.
Ce n'était pas la peine que je revienne. Donc j'ai dû y aller contraint et forcé parce que j'étais moi-même en train de déposer les troupes à Fontainebleau et j'étais revenu avec les troupes et en fait j'avais une heure pour arriver, je suis arrivé à 20h et je devais être à 21h à Sancier. Donc je suis arrivé avec le camion, j'ai dit tant pis, je prendrai du trou et je me suis garé avec mon camion, ma tourelle,
avec le camion
mon truc.
Militaire.
Ah ouais, habillé en camouflage et tout.
Avec la tourelle, c'est quoi la tourelle?
La tourelle, c'est un truc sur lequel on met les mitrailleuses.
Et vous êtes garé devant Sancier
avec la place, sur la place directement. Je me suis posé en plein milieu de la place et puis je suis descendu et je me suis dit, bon ok, j'y vais au moins, j'ai fait acte de présence et une demi-heure après, je dois sortir et tout. Et voilà.
Habillé en tenue.
Voilà, je suis rentré, tout le monde croyait que je venais pour une descente, embarquer les gens pour les 3 jours, donc ça a foutu un coup de panique. Et je me suis assis et je leur ai expliqué la situation et leur dire que voilà, malheureusement... Je pouvais rester qu'un certain temps ou alors j'embarquais tout le monde. Non.
C'est extraordinaire. Vous savez ce que vous allez faire ensuite ou pas? Vos prochains projets?
Prochain projet, en fait, je suis en écriture, là, en plein travail. Et puis, il va y avoir une grosse promo aussi qui va être pas des moindres. Ça va être Astérix.
Vous serez qui?
Je fais Biopix. Je suis le biographe de César.
Donc, il n'existe pas, évidemment.
Il n'est pas dans les albums. Vous connaissez César. Bon, alors c'est forcément qu'il y a eu un biographe quelque part.
Voilà. Et j'ai vu que vous serez également dans un film espagnol. Mais en espagnol ou pas?
Ah, c'est un très joli film qui s'appelle En attendant Dali.
Mm-hmm.
Ouais. On ne sait pas encore où ça va apparaître, mais si ça va être sur une plateforme ou au cinéma. Mais c'est un très joli film. Très,
mais
très
est-ce que
film.
Vous jouez vous-même en espagnol?
Oui, je joue en espagnol et en français. Et pas en catalan. Non, en espagnol et en français, oui.
Vous avez dit cette phrase qui m'a laissé perplexe. Vous avez dit « J'ai envie de toucher des rôles plus épais, plus costauds. Les propositions sont de plus en plus démentes et intéressantes. Démentes comment ?»
Par exemple, dans les films d'auteur, il y a de plus en plus de choses parce qu'il y a énormément de propositions du point de vue série. Et il y a des choses hyper intéressantes qui sont en train de se développer en ce moment. Quoi. Des personnages qui peuvent se développer sur le
temps.
Ça
me fait plaisir. Je veux dire pourquoi. Parce que souvent, j'entends ici et un peu partout, les gens se plaignent du cinéma. que les propositions sont de moins en moins intéressantes, que tout devient de plus en plus uniformisé et que le cinéma commence à être ennuyeux. Heureusement qu'il y a les plateformes, presque.
Non, je pense que c'est des vases communicants. Je pense qu'il y a certaines histoires qui sont intéressantes à raconter sur des plateformes ou en série ou en mini-série sur des modules différents et d'autres et des histoires qui ne servent à rien au cinéma. Et donc voilà, c'est très bien que ça se répartisse. Et puis d'autres qui sont formidables à être lus et d'autres qui sont merveilleuses à regarder au théâtre. Donc, non, il y a quelque chose qui est en train de se détendre et aussi de se durcir. Et puis aussi des plateformes qui sont en train de prendre un axe. Donc, on va voir comment tout ça...
Mais vous dites qu'il y a des choses qui vous attristent. Vous dites que la société a de plus en plus de mal à se concentrer très longtemps sur une histoire ou sur quelque chose de complexe.
Je crois que surtout qu'il y a des gens qui décident un peu pour les autres et qui considèrent que les gens ont de plus en plus de mal à comprendre ce qu'on leur raconte. Et je pense que c'est faux. Je pense que quand on fait un effort, quand on raconte certaines choses aux gens, mais il y a pas mal de gens qui considèrent que les gens en fait doivent leur faire un petit pouce qui bouge et ils doivent rester juste éveillés. Quoi. Donc, mais c'est vrai que c'est complexe pour les jeunes générations de rester plus concentrés sur 30-40 minutes à cause des tablettes, de notre vie sociale. Quoi.
Vous avez vu la une de Télérama sur le cinéma français ?
Non.
Ils ont fait une grosse une pour faire la peau aux clichés sur le cinéma français avec ces exemples. Il y avait 4 slogans en une. Non, il n'y a pas trop de films. Non, ils ne sont pas intel aux chiants. Non, ils ne sont pas trop subventionnés. Non, ils ne sont pas tous pareils.
Non, en fait, il y a une diversité. Non, mais il y a une diversité.
Vous êtes d'accord avec Télérama ?
Écoutez, il y a une diversité qui est démente. Là, on le voit avec les Césars. Là, j'ai le droit d'aller sur la plateforme des Césars et tout ça. C'est quand même passionnant. La seule chose, c'est que oui, il y a un problème, c'est que les gens sont tellement débordés par la vie que ils doivent payer une place et se déplacer et aller là. Je pense que le temps manque aux gens pour pouvoir tout regarder.
Dernier mot sur votre vin, le Rosé Garcia. On en avait parlé une fois, mais vous veniez de le lancer. Ça marche comment ?
Ah là, maintenant, ça commence à être bien.
Ouais. Ah, parce que j'étais très triste. J'ai trouvé une interview du Midi Libre du mi-juillet, du 23 juillet. Vous avez fait cette confidence. Alors, j'explique, c'est un rosé, mais qui s'appelle José. Mais rosé, ça se prononce de plusieurs façons différentes. Vous êtes habillé en mariachi un peu. Il y a un chapeau mexicain, si je me souviens bien.
Non. Moi, je suis avec ma tête.
Il y a votre tête de José. Vous avez raison.
Voilà.
C'est peut-être que j'ai repris Vous
étiez avec les Mexicains le jour où je l'ai fait boire.
Et vous avez dit, pour l'instant, on n'a pas gagné une thune. Donc ça y est, ça marche.
Non, maintenant, cette année peut-être. On va commencer à vivre un petit peu de ça. Mais pas grand-chose. De toute façon, ça reste quand même une bonne blague, une bonne éclate. Et cette année, je pense que ça sera bien.
C'est extrêmement réussi. Merci beaucoup, José Garcia. Je rappelle, le torrent. Ce torrent, c'est de l'eau fraîche qui descend de la montagne des Vosges. Je ne l'ai pas dit, avec des images absolument somptueuses. Film d'Anne Leny avec elle-même, avec Dussolier, avec Ophélia Kolb et la jeune Capucine Valmarie. Merci beaucoup, José Garcia, d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve demain à 9h. Nous serons avec les envoyés spéciaux d'Europe 1 à Doha. Jacques Vendroux et Jean-François Pérez, ils nous font vivre la Coupe du Monde. Vous savez pourquoi je voulais les entendre demain ?
Non.
Je me suis dit, si la France est éliminée, ils vont être comme des fous. Si la France est qualifiée, ils vont être comme des fous.
On ne peut pas être éliminé.
Ben oui, mais quand j'ai choisi...
Bah non, on ne peut pas, on va gagner.
Quand j'ai choisi la date, c'était à 3 semaines. Je ne pouvais pas savoir ce qui allait se passer.
Quel visionnaire.
L'écrivain et scénariste... c'était impossible de me planter. Et l'écrivain et scénariste Gilles Le Gardinier pour son nouveau roman « Le secret de la cité sans soleil ». Julia Vignali, Mélanie Gomez, bien fait pour vous. D'abord, je vous dis bonjour.
Bonjour Philippe.
Et ensuite, je vous demande quel est le thème de l'émission.
Alors, je vous pose la question, puisque ce sera notre thème aujourd'hui. Et si vieillir était une chance ? Qu'est-ce que vous en pensez, José Garcia ?
C'est pas gentil.
Non, vous êtes pas d'accord. Alors, nous, on va essayer.
Je vous jure que non.
Non, ouais. Non, c'est vrai. Non.
Et surtout, vers 90, 95.
Je vous emmènerai dans un EHPAD et on va faire un petit sondage. Vous allez voir, c'est pas drôle.
Une chance quand même. Hein.
Avant l'EHPAD aussi, il se passe beaucoup de choses. Comment on fait pour accepter ces rides ? Est-ce que les cheveux blancs, par exemple, aujourd'hui, c'est tendance, les cheveux blancs, vous trouvez pas, non ?
Mais non, ça n'a aucun intérêt. Tout ça, ça n'a aucun intérêt.
Et la retraite, Philippe et
la retraite, c'est encore pire. Ouais. Non.
Mais
donnez-nous de la testostérone, piquez-nous avec des anabolisants.
Mais restez avec nous, vous allez peut-être changer d'avis.
On veut tous ressembler à Tom Cruise.
Il est vieux.
Et vous, les cheveux blancs, vous les avez, Philippe ?
On dirait qu'il a 25 ans, Tom Cruise.
Parce qu'il vieillit bien.
Mais chaque année, on dirait qu'il a un an de moins.
On va vous expliquer ça. Non, bien fait pour vous, comment bien vieillir.
On vous écoute et moi je vous dis salut, à demain. Allez, salut José.
Merci.
Aldi.